d'emploi. Mode d'emploi.
.3, fréquence par pluriel, l'émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et en cette période mouvementée et bien heureux d'être mouvementé de temps en temps quand même, dans ce pays où tout semble lisse, où toutes les réformes nous semblent passer à travers, je ne saurais pas dire quoi parce que ce n'est pas très poli même à l'antenne de FPP. Bref, en cette période tourmentée, notre émission va être un peu délocalisée. On a Gaël à distance de Versailles. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Salaud de gréviste !
Et nous avons aussi un invité surprise et mystère qui s'appelle d'un nom gaulois, Assurix.
Encore une prise d'otage.
Oui, sûrement, certainement. Mais en attendant, nous avons quand même, et heureusement, les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Et Jean-Marc va nous parler des grandes fortunes de France avec un titre qui n'a pas d'égal, il y a un os dans le bidule.
Eh oui, les 9 premières fortunes de France, les Arnaud, Wertheimer, Hermès, Bettencourt, Pinault, Muliez et autres Dassault, capitalistes, tenez-vous bien, j'ai du mal à prononcer le chiffre, 308 milliards d'euros, mais paient peu d'impôts. Comme ce pauvre Muliez, seulement 5e du palmarès, c'est un parent pauvre qui a été s'installer en Belgique parce que justement, étant un peu pauvre, il voulait gruger un peu mieux le fisc français. C'est pas le seul, Arnaud, qui est quand même le numéro 3 mondial et qui a été pendant une journée le numéro 1 mondial la semaine dernière, après quelques petits problèmes boursiers. Eh bien, Arnaud aussi voulait devenir belge pour payer moins d'impôts. C'est vrai que quand on a ce type de fortune, on doit absolument baisser, optimiser ses impôts. C'est peu de dire qu'il y a un os lorsqu'on s'aperçoit que ces 9 familles donc, ont une capitalisation, dont le chiffre est indicible tellement il est énorme, qui dépasse l'ensemble des recettes annuelles de l'État français, lequel est tout de même le 6e État le plus riche du monde. Dans quel monde vivons-nous, justement, si 9 familles, on ne parle même pas d'entreprise, mais 9 familles possèdent l'équivalent de la fortune du 6e État le plus riche du monde?
Alors ça, finalement, on le sait, on s'en doute, c'est un monde finalement merveilleux pour ces 9 familles, un moment de bonheur, quelque chose d'exceptionnel pour eux d'avoir des richesses pareilles.
Et oui, un peu de bonheur, et justement, le bonheur, on va en donner à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas la fortune de Arnaud, avec François Ruffin. En ces temps terribles d'ignobles prises d'otages par...
Les grévistes.
Eh ben non.
Non, ça va pas être les grévistes.
Prise d'otage par un président, des fonds de pension et autres assurances. Je vous propose un petit moment de bonheur que vous pourrez offrir sans modération à vos familles et amis pour Noël, les étrennes ou les rois mages. Le dernier livre de François Ruffin, Il est où le bonheur, sans point d'interrogation, dénonce bien sûr la situation désastreuse de notre monde, mais là où c'est plus original et plus sympathique, peut-être est-ce pour cela qu'il y a le mot bonheur dans le titre, il propose aussi des pistes politiques pour en sortir. Pas de panacée, bien entendu, car le mal est profond, mais des pistes tout de même. Alors, ne vous privez pas, François Ruffin, Il est où le bonheur, aux éditions Les Liens qui libèrent, dans toute bonne librairie, pour 14 euros seulement.
Et si vous avez des fêtes de fin d'année, n'oubliez pas, le Ruffin, c'est du bonheur. Et autre sujet, lui, beaucoup plus parisien, fait encore une fois par Jean-Marc, notre cher parisien, il va nous parler du projet de la PHP.
Alors, c'est pas un projet, c'est toute une série de projets. J'en ai choisi un sur la PHP et l'autre sur la SNCF, puisqu'il y a dans Paris, en particulier Paris Nord, mais pas seulement, des quantités de privatisation rampante de l'espace public. Alors, parmi les nombreux projets délirants qui fleurissent à Paris, il en est qui sont vraiment débiles. 2 exemples de cette débilité énorme retiennent l'attention, car en plus d'être inutiles et stupides, ils mettent gravement en péril le patrimoine commun et l'intérêt général. Le premier, c'est la restructuration de la gare du Nord. Cette gare avait certes besoin d'un coup de nettoyage et de rénovation, mais on ne parle pas de rénovation, mais de restructuration. Pourquoi restructuration ? Parce que, évidemment, c'est un consortium privé qui est chargé de le faire. Et ce consortium privé, pas du tout désintéressé, qui comprend entre autres l'exilé fiscal Muliez, dont nous avons parlé dans l'une des chroniques précédentes, prévoit la création d'un centre commercial. A-t-on vraiment besoin d'un centre commercial de plus à Paris ? On peut se le demander. Ce centre commercial, il présenterait un avantage, c'est que pratiquement tous les passagers seraient contraints de le traverser pour se rendre jusqu'au quai. Ce qui rajouterait entre 7 et 10 minutes de marche aux voyageurs avec leurs bagages, mais qui, bien sûr, les tenterait et leur ferait acheter plein de choses. C'est très intéressant. Le deuxième projet, c'est celui de l'Hôtel Dieu. Martin Hirsch, le directeur de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, veut rénover. C'est vrai que l'Hôtel Dieu est en ruine. Bonne idée, mais la façon de le faire est plutôt critiquable. Un tiers de la surface de l'Hôtel Dieu serait abandonnée pour 88 ans à des investisseurs qui pourraient profiter de cet emplacement unique à Paris et de bâtiments incroyables pour faire, allez, je vous laisse deviner...
Un lieu culturel ?
Une galerie marchande et un hôtel de luxe, comme c'est original.
Moi, je pensais à une crèche.
Et ce n'est pas encore le meilleur de l'histoire. Parce que Martin Hirsch, justement, fait ça, mais en même temps, il nous dit dans l'un de ses rapports que l'Hôtel Dieu, qui doit continuer à être un hôpital, eh bien, manque de surface. On coupe un tiers de la surface pour l'offrir au privé, mais l'Hôtel Dieu manque de surface. Alors, comme il manque de surface, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et c'est dans le projet. Il faudrait, dans chaque cour de l'Hôtel Dieu, construire des bâtiments modernes qui saccageraient tout pour rajouter les mètres carrés qu'on a donnés au privé. C'est pas génial, ça ? Alors, la commission du Vieux-Paris ne mâche pas ses mots en déclarant, je cite, « Dans sa version actuelle, le projet est scandaleux. Il constitue un massacre patrimonial et du vandalisme architectural. » On ne peut pas faire plus clair. On pourrait croire que ce genre d'idioties sont rares ou isolées, mais il n'en est rien. L'ancien palais de justice pourrait finir de la même manière, comme l'hôpital Fernand Vidal ou l'hôpital Lariboisière, tous de très beaux bâtiments qui sont compris entre le XVIIe et le XIXe siècle et qui ont l'avantage, en plus, de comprendre pour certains des très beaux jardins qui sont très valorisables pour faire des groupes hôteliers. Et donc, tout cela... pour des entreprises vautours qui le font avec la complicité des pouvoirs publics, qui accaparent l'espace public, privatisent l'espace public, mais pas au profit des Parisiens, à leur seul profit.
Alors au profit des Parisiens, mais on a une municipalité dite de gauche. Il paraît même que l'adjoint de Paris au bâtiment, c'est un PCF. C'est étrange, ça.
Oui, et puis il y a un premier adjoint qui est très intéressant à la mairie, qui s'appelle Missica. Et ce Missica, vous savez où il travaillait avant la mairie ? C'était l'un des adjoints de Xavier Niel, l'un de nos milliardaires favoris.
Oh, on finit par tourner en rond autour du périph'. Alors nous avons en direct de Versailles un de nos chroniqueurs habituels, Gaël. Ça va, Gaël ? Tu nous entends ?
Oui, ça va.
Eh bien, Gaël, envoyé spécial au pays d'Amazon. Je crois que tu vas nous parler du milieu de la grande distribution et surtout de la critique et des différentes actions qu'en ont fait l'association ATAC ces derniers temps.
Voilà, fin novembre, ATAC, les Amis de la Terre et l'Union syndicale solidaire ont publié un long rapport qui décortique le monde selon Amazon et qui met en lumière les dérives fiscales, sociales et environnementales de ce géant de la surconsommation. Alors, Amazon, chacun le sait, c'est un champion de l'optimisation fiscale. Par exemple, aux États-Unis, ils ont doublé leurs bénéfices entre 2017 et 2018. Et s'ils avaient été imposés au taux nominal, c'est-à-dire 21%, ils auraient dû payer 1,2 milliard de dollars en 2017, et 2,3 en 2018. Et en fait, ils ont payé zéro en 2017 et ils ont eu un crédit d'impôt de 129 millions en 2018. Tout ça grâce à des articles d'optimisation fiscale, comme on dit avec le pays. En Europe, jusqu'en 2015, il y avait une holding luxembourgeoise de Amazon qui facturait aux filiales européennes des redevances supérieures à celles qu'elle payait à la société mère. Elle est domiciliée dans le Delaware. Comme ça, les bénéfices apparaissaient au Delaware, qui est un paradis fiscal interne aux États-Unis, et au Luxembourg, qui est aussi très arrangeant sur le plan fiscal, puisque Luxembourg avait un accord secret avec Amazon, de manière à ce que Amazon paye très peu d'impôts. Selon l'enquête de la Commission européenne, ce système a permis à Amazon d'économiser 75% des impôts qu'il aurait dû payer au niveau européen sur ses bénéfices. Amazon a été condamné en octobre 2017 à restituer 250 millions d'euros d'impôts au Luxembourg. Et finalement, l'État luxembourgeois a refusé cette somme. Cette optimisation fiscale est permise par le fait qu'Amazon est implanté dans beaucoup de pays, donc il peut faire des montages très facilement. Il est en position de force face aux États avec un chantage à l'emploi. Et puis, il mène une activité de lobbying intense, financée à hauteur de 15 millions par an, en dollars, pour adapter les règles juridiques en sa faveur. Alors Amazon se défend en affirmant que l'entreprise s'acquitte de tous les impôts et taxes dont elle est redevable et qu'elle agit toujours dans le respect du cadre juridique. Et effectivement, Amazon, très souvent, tire simplement profit des marges d'interprétation laissées par la loi. Et ce sont des montages complexes qui sont difficiles à investiguer sans une coopération entre les États. Ça nécessite des procédures judiciaires longues et coûteuses. Et ça fait que des entreprises comme Amazon échappent la plupart du temps à toute condamnation en négociant des accords avantageux avec les autorités publiques. Amazon bénéficie aussi d'un certain dumping social pour attirer les entreprises. Par exemple, en France, en 2017, Amazon a payé 8,2 millions d'impôts, mais a touché 5,6 millions de crédits de CICE, qui était un crédit d'impôt dont la justification officielle, c'est de protéger la compétitivité des entreprises françaises.
Merci François Hollande.
Et Amazon aurait lui-même payé plus d'impôts que ça, puisque selon Attac, Amazon dissimulait 57% de son chiffre d'affaires réalisé en France et avait envoyé plus de 2,3 milliards d'euros vers les paradis fiscaux en 2017. Alors un moyen qui serait efficace pour lutter contre les montages financiers permettant à Amazon et aux consorts d'optimiser leurs impôts, c'est ce qu'on appelle la taxation unitaire. Ça consisterait à considérer chaque multinationale comme une entité unique et non pas comme une somme d'entreprises séparées, et à taxer le bénéfice global de l'entreprise et à répartir donc ce bénéfice dans les pays où les entreprises ont réalisé leur activité. Si les pouvoirs publics avaient la volonté politique d'instaurer cette taxation unitaire, on a calculé qu'Amazon aurait payé en France en 2017 21,9 millions d'impôts, c'est-à-dire plus que deux fois plus que ce qu'elle a payé. Alors une deuxième partie du rapport concerne le rapport entre Amazon et l'environnement. C'est vrai que le transport, c'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial, et Amazon y contribue largement. Amazon a des engagements climatiques transport qui sont ambitieux. Ils visent zéro émission nette pour les transports d'ici 2050 et 50% des transports en zéro émission nette en 2030. Alors en fait, c'est une escroquerie puisque cet engagement ne porte que sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire le trajet de l'entrepôt au client. Et sur tout le reste de l'acheminement, Amazon en fait développe le transport aérien de manière à assurer la livraison en 24 heures, qui est comprise dans l'offre Prime. Et ainsi, le transport de produits par avion a augmenté de 29% entre juillet 2018 et juillet 2019. À la fois réduire les émissions du transport tout en augmentant les trajets en avion. Alors pour le dernier kilomètre, Amazon s'affiche en vert avec des véhicules électriques. En fait, ça ne représente qu'une petite partie de la flotte. Puis bon, l'électricité, on la produit soit avec des énergies carbonées, soit avec du nucléaire. Au-delà du transport de produits, le bilan environnemental d'Amazon est désastreux aussi par la surproduction que Amazon favorise. Alors, on dirait que les produits, ils seraient quand même fabriqués et vendus même s'il n'y avait pas Amazon. Oui, sauf que Amazon reconnaît elle-même que son modèle économique repose principalement sur la croissance continue des ventes de produits. Donc Amazon pousse à la surconsommation en écrasant les prix et les travailleurs au passage, ça je vais y revenir. Enfin, toujours concernant l'environnement, Amazon c'est aussi les data centers de Amazon Web Services. Et pour stocker les données, les centres informatiques ont besoin d'électricité. Et on a mesuré qu'en 2018, les centres de données pourraient consommer 1% de l'énergie de l'électricité mondiale. Et la moitié de ces centres, c'est Amazon. Alors Amazon se vante d'alimenter ses centres avec de l'électricité verte, mais en réalité, Amazon installe à son principal data center en Virginie. Il a même triplé ses capacités de stockage. Or, la Virginie, c'est un État qui ne s'approvisionne qu'à 3% en énergie renouvelable. Et en Virginie, les data centers d'Amazon sont alimentés en réalité à 80% par des énergies non renouvelables. Donc, Amazon est néfaste au climat, il est aussi néfaste aux salariés, à commencer par les siens. En avril 1997, tout début de l'Internet, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, disait déjà « Le client doit être capable de commander et de payer de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire en un seul clic de souris. » Et on y est aujourd'hui, en un clic. Vous êtes livré en 24 heures. Et malheureusement, ça a des conséquences pour les salariés. Chacun a entendu parler des conditions de travail dans les entrepôts Amazon, avec un flicage permanent, du stress, des troubles de la santé. Tout ça est détaillé très précisément dans le rapport, avec plein d'exemples. Et les conditions sont tellement dures que sur le site de Montélimar, par exemple, les salariés en CDI ne restent pas plus de 2 ans et demi en moyenne. Et un autre problème, c'est que Amazon impose sa logistique à flux hyper tendu aussi à ses sous-traitants et à ses concurrents, qui sont obligés de s'aligner sur les pratiques d'Amazon pour rester concurrentiel, y compris dans des grandes entreprises publiques comme la Poste. Mais ça, c'est encore de l'exploitation capitaliste à la grand-papa. L'exploitation 2.0 moderne, c'est de se passer de salariés. C'est par exemple l'utilisation de livreurs entre guillemets indépendants, comme chez Uber. Et puis c'est aussi ce qu'on appelle le micro-travail. Depuis 2005, Amazon a une plateforme qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. C'est une plateforme web qui fait réaliser aux internautes des tâches plus ou moins complexes, comme identifier des objets sur des images, traduire des documents, retranscrire des sons. Tout ça pour améliorer ses algorithmes et contribuer au développement de l'intelligence artificielle. C'est payé 8 centimes la tâche et ça permet de faire travailler des gens sans le statut de salarié. Finalement, l'impact global d'Amazon sur l'emploi, en dehors de la dégradation de la qualité de l'emploi, c'est que pour un emploi de merde créé, eh bien, on détruit 2 emplois dans le commerce.
Et ça, c'est vachement écologique.
À tout ça, bien, la résistance s'organise. Les salariés d'Amazon, malgré les difficultés, se syndiquent, s'organisent au niveau mondial avec des actions conjointes. Par exemple, au moment du Prime Day, qui correspond au pic d'activité d'Amazon, bien, les syndicats ont appelé à appliquer strictement les directives en matière de sécurité au travail. Par exemple, faire attention à son dos, éviter de courir, s'hydrater fréquemment, faire des pauses régulièrement. Et ça a eu du succès, et puis ça a bien gêné la direction, parce que quand on applique les directives de sécurité, bien, Amazon ne marche pas exactement comme d'habitude. Il y a eu aussi des grèves transnationales en juillet 2018, simultanément en Allemagne, en Espagne, en Pologne. En 2019, ça a repris en Allemagne, en France, en Pologne et aux États-Unis. Et puis, il y a des gens qui se mobilisent contre l'implantation d'Amazon chez eux. Par exemple, dans le Queens, à New York, où Amazon voulait installer son siège. Il y a aussi des actions contre l'exploitation des données et la surveillance de masse menée par Amazon, qui est le nerf de la guerre commerciale. Et puis, des actions juridiques, notamment en France, l'association La Quadrature du Net a déposé une plainte au nom de 12 000 utilisateurs et utilisatrices contre Amazon Europe. Alors, suite à la publication de ce rapport, ATTAC a organisé un vendredi noir pour Amazon, le jour du Black Friday, à Clichy, une centaine d'activistes d'ATTAC, de Greenpeace, de Solidaire, du DAL, de la Quadrature du Net, des Amis de la Terre ont bloqué le siège d'Amazon. À Lyon, des activistes ont bloqué le site d'Amazon de Saint-Priest. Le samedi, l'entrepôt d'Amazon de Montélimar a été bloqué. Et puis, il y a eu des dizaines d'autres actions partout en France pour bloquer les Amazon Lockers, c'est une espèce de consigne où on retire ses produits, ou bien recouvrir les vitrines vides des centres-villes désertés par des affiches Amazon Mathieu. Donc finalement, en 2019, le Black Friday ne se sera pas résumé à une énième fête de la surconsommation. Grâce à cette mobilisation, la prise de conscience grandit, le grand public commence à s'interroger sur les conséquences sociales, fiscales et environnementales du monde que ces multinationales essayent de nous vendre.
Eh oui, Gaël, je ne sais pas si tu nous entends. On a essayé de te poser une ou deux questions pendant l'émission. Et une des questions, Jean-Marc, c'était...
Ah non, non.
Tout a été expliqué parfaitement.
Non, je voulais simplement dire qu'il ne fallait pas commander de soutien-gorge chez Amazon. Parce qu'ils arrivent avec un seul bonnet.
D'accord. Pourtant, ça profite en général aux gros bonnets. Alors, on fait une petite pause musicale, choisie par Gaël d'ailleurs, en écoutant Anaïs, Même si la vie.
Bonsoir. Même si la vis pour du foie gras, ni même de la mousse de canard, si ça atteint la zarsable, oh, fume.
Donc la... 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Alors on va poursuivre notre drôle d'émission du jour avec, disons, plein de petits bouts de quoi ? Ben, de petits bouts de vie hachée qu'on appelle parfois cotiser pour les retraites. Et ces petits bouts, on va tenter de les faire avec différents intervenants et une vision globale, parce que finalement, ben, les retraites... qu'on essaye de nous faire passer, c'est un grand coup de matraque.
Et oui, et le mois dernier, nous recevions Armando, ici même, qui nous parlait de la situation catastrophique au Chili et comment le Chili en était arrivé là. Et avec un petit coup d'État mené par Pinochet et des mesures ultralibérales de privatisation de tous les services. Eh bien, il nous expliquait aussi que les seuls rescapés de la saignée ultralibérale de 1973 furent, comme il se doit, les militaires et les policiers qui gardèrent leurs avantages, et notamment une très bonne retraite par répartition, et ils sont les seuls au Chili. Et qu'apprend-on hier au détour d'un flash d'information ? Nous sommes en France en 2019 et non pas au Chili en 1973, et on apprend que le gouvernement négocie avec les organisations syndicales policières leur maintien dans le régime actuel afin de les décrocher du mouvement. À croire que Macron, Philippe et Castaner s'inspirent directement de Pinochet, dont l'humanité et la réussite font envie. Il est vrai, toujours en 2019.
Font envie, mais là tu parles des policiers des années 60... 10 pour le Chili, mais les policiers aujourd'hui au Chili sont aussi des gens qui ont certainement pas un niveau de richesse équivalent à ce qu'on peut connaître peut-être dans d'autres pays du monde, mais qui sont bien au-dessus des niveaux de retraite, en tout cas, mais aussi de salaire de la population.
Bah, ce sont les seuls à avoir des salaires corrects dans les gens sans diplôme et les seuls à avoir des retraites correctes dans tous les salariés.
Et finalement, bah, ils aiment taper peut-être par nature, ces policiers chiliens, mais c'est aussi pour conserver leurs acquis. Et ça c'est un vrai parallèle. Alors, sur la question des retraites, on a un invité mystère. Est-ce que notre invité mystère, Assurix, est parmi nous ?
Oui, bonsoir à tous en studio, bonsoir aux auditeurs. Assurix est à l'antenne, il n'y a pas de problème.
Alors notre invité mystère Assurix est en fait, comme son nom l'indique, un assureur qui a eu une vie complète, avec des passés même fonctionnaires, une partie de son existence.
C'est ça.
Et peut-être d'autres parties commerciales. Enfin bon, en tout cas aujourd'hui il est assureur dans une boîte d'assurance légèrement connue que nous ne citerons donc pas ici, mais pour laquelle monsieur Assurix a l'habitude de faire, entre autres, quelques petits contrats qui sont... on peut le dire, à base d'épargne pour les périodes de fin de vie qu'on appelle parfois retraite. Or, cette retraite privée, on s'en doute, elle est basée sur un calcul
qu'on appelle le calcul par points. Je ne sais pas si ça inspire tout le monde, mais enfin, en tout cas, je crois à Surix que ça t'inspire beaucoup un parallèle entre la réforme actuelle et la réforme que tu connais bien, celle de ces assurances privées.
Par points avec un T ou avec un G ?
Vous pouvez mettre un G compte tenu de ce qui se prépare. Oui, je vais planter le décor. Oui, c'est vrai, j'ai été salarié, salarié cadre, fonctionnaire, enseignant. Je suis profession libérale et en lien avec un grand groupe français d'assurance. Et je suis spécialisé en fait en assurance de personnes. Ne me posez pas des questions sur les voitures ou les bâtiments, j'y connais rien. La retraite par points telle qu'elle se dessine, pour moi, c'est la plus grande casse sociale depuis 1945. Et je sais bien de quoi je parle, puisque c'est mon métier. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est ce qu'on risque d'abandonner si le gouvernement passe sa réforme, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Et pour ça, il faut déjà bien comprendre comment fonctionne le système. Vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions ou si je suis trop long. Le système actuel, en fait, il repose sur deux piliers. Il y a un pilier qui s'appelle la retraite de base, qui est un régime par répartition. Donc je rappelle simplement que c'est les cotisants d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. Ce régime par répartition, ce qu'on oublie de préciser, c'est que c'est un régime déjà universel, totalement mutualisé, qui est le même pour toutes les professions. Ce régime de base, il n'est absolument pas par points, évidemment, mais ce régime de base, c'est un des ciments sociaux de notre République. C'est ce qui permet à tout le monde d'avoir un régime de base de retraite correct. Je dis correct parce qu'à mon sens, il n'est pas assez élevé. Pour moi, un régime de base correct, au taux plein, on en reparlera après, hein, des taux et des âges et des pivots et ce que vous voulez, un régime de base correct, c'est un régime qui donne, à minima, une rémunération supérieure au seuil de pauvreté. Et de mémoire, vous me coupez si je me trompe, mais le seuil de pauvreté en France doit être aux environs de 1100 euros. Alors ça me fait doucement rire quand on dit qu'on va donner 1000 euros aux artisans, aux commerçants et aux agriculteurs, on pourra en parler tout à l'heure, qui eux ont des retraites un peu inférieures à 1000 euros, mais il y a des raisons aussi pour ça.
Alors, la retraite, ce
régime de base, il est absolument fondamental et il est absolument à défendre. C'est ce qui fait le ciment, notre lien social, et ce qui permettra demain, aux générations futures, de maintenir un niveau de vie correct. Et entre parenthèses, si on veut avoir un niveau de vie correct, ça réglerait aussi pas mal de problèmes. Plus tard, sur la dépendance, parce que pour moi, la retraite et la dépendance sont indissolublement liées. Si vous avez une retraite correcte, il y a déjà beaucoup moins de problèmes pour financer la dépendance. D'ailleurs, l'État n'a aucun moyen aujourd'hui de la financer, si ce n'est à imaginer un énième impôt supplémentaire, alors qu'on est déjà champion du monde en la matière. Bon, bref.
Par rapport à ça, si tu nous entends, Eric, donc ça, c'est un État qu'on a bien en tête tous. Hein. D'ailleurs, je pense que les gens ne sont absolument pas dupes de la situation. C'est bien pour ça qu'il y a à la fois autant de grévistes et autant de personnes qui soutiennent la grève malgré tous les tracas quotidiens que cela l'a induit. Et Jean-Marc, tu voulais dire quelque chose sur le revenu minimum ?
Oui, je voudrais juste parler du régime par points quand même. Sauf si vous avez des questions en studio.
Vas-y sur le régime par points.
Voilà. Et donc le deuxième grand pilier de notre système de retraite actuel, c'est un régime par points, par profession, cette fois-ci, où vous cotisez généralement un régime complémentaire par points et un deuxième régime, un régime surcomplémentaire par points, et qui vous donne effectivement un complément au régime de base. C'est avec une cotisation qui est sur l'intégralité de votre salaire, alors que le régime de base, c'est uniquement sur la tranche A maximum, ce qui permet des péréquations et une forme d'équité. Et ce régime par points donc vient compléter le régime de base et vous donne votre retraite. Alors, je veux m'arrêter juste un petit moment sur le régime par points. S'il était demain généralisé, donc vous avez bien compris que ce que voulait mettre en place le gouvernement, c'était un régime universel, unique, par points, correspondant, évidemment, régime de base et régime complémentaire.
Généralisé, c'est ce qu'on dit pour la phase terminale du cancer, en général.
Oui. Ce régime par points, on le connaît très bien chez les assureurs. C'est un régime qui existe déjà pour piloter un certain nombre de contrats. Et quand je dis piloter, c'est à dessein. Hein. Un certain nombre de contrats, les PERP, voilà, tous les contrats en fait qui permettent de sortir en rente. Il a une vertu extraordinaire, ce régime par points, c'est que ça permet de piloter quasiment au mois le mois le montant des rentes que vous pouvez verser en fonction de ce que vous avez dans la caisse. Alors je m'explique. J'entends moi sur les plateaux de télé et à la radio que l'on s'acharne sur la valeur du point. Ah, la valeur du point, elle ne pourra pas baisser, on va la graver dans le marbre, on va inscrire dans la loi, etc. Alors moi, je peux aussi inviter Monsieur le Premier ministre à fixer dans la loi le fait que le point soit revalorisé de 5% par an, et pour autant, les pensions vont baisser. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il est où le loup? Parce qu'il y a un gros loup, là. Enfin, dans l'ensemble du dispositif, il y a même une meute. Bon, bref. Le loup, c'est que quand on travaille sur un régime par point, vous avez deux valeurs de points. Vous avez une valeur d'acquisition du point et vous avez une valeur de restitution du point. Alors, je rembobine le film. Vous cotisez des euros. Et puis, il y a un premier tour de passe-passe qui consiste à transformer des euros en points. La première question que devraient se poser les Français, c'est de savoir comment on transforme les euros en points. Et puis ensuite, vous cumulez des points. Et puis, au bout du compte, on vous servira une valeur de points. Bon. C'est un système qui existe déjà, hein, l'ARCO Agir, qui depuis 45 et 47 fonctionne comme ça, avec une valeur du point qui est fixée de manière paritaire chaque année, qui n'est évidemment pas garantie dans le temps. Et d'ailleurs, il y a des régimes où les points ont baissé, hein, pour être très clair, pour que financièrement ils soient équilibrés. Il faut absolument, absolument parler de la première valeur de point, qui est la valeur d'acquisition. Alors en fait, c'est quoi cette valeur d'acquisition du point? C'est un diviseur. Un diviseur, je vous invite à regarder hein, l'ARCO, la GIRC par exemple, c'est un diviseur qui s'appelle techniquement le salaire de référence. Et ce salaire de référence, si vous ne le figez pas, si vous ne le fixez pas, il peut augmenter à loisir. Donc vous avez bien compris que vous aviez deux leviers dans les mains. Un à l'entrée pour les points, un à la sortie pour la valeur des points. Donc on ne parle que d'un levier aujourd'hui dans les médias. Le plus important, c'est le premier, c'est le diviseur. Et si vous regardez l'évolution de ce salaire de référence, toujours pour l'ARCO l'AGIRC sur les dernières années, vous vous rendez compte que le diviseur, il augmente beaucoup plus vite que la valeur du point. Autrement dit, vous pouvez toujours avoir un point garanti ou revalorisé. Si le premier levier à cotisation égale, fait que en augmentant le diviseur, vous avez chaque année de moins en moins de points, ben en volume, vous aurez une pension qui baisse. C'est aussi simple que ça. Donc la première entourloupe, elle est quand même là, et j'aimerais bien qu'on en parle. Parce que, alors ça, c'est pratique hein, pour les actuaires qui sont des techniciens qui gèrent les contrats d'assurance avec des sorties en rente, c'est qu'ils peuvent jouer sur les deux leviers. Il y en a un, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et puis l'autre, évidemment, on n'en parle jamais, mais celui-ci, il est autrement plus sournois. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur le point.
C'était un point très clair.
Voilà.
Donc, en quelque sorte, le retraité perd deux fois et l'assurance gagne deux fois.
C'est un peu ça.
Alors ça, c'est le point d'acquisition et le point de revente.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un régime où on sort en rente, le capital qui est constitué, qui s'appelle le capital constitutif de la rente, qui est gardé par la banque, l'assurance ou l'État, ce capital est évidemment aliéné. Le bénéficiaire de la pension de retraite n'a pas accès à ce capital. Voilà.
Donc ce capital, ça c'est une logique privée. L'adaptation des points dans une logique d'État, c'est pas forcément du capital, mais c'est par contre des gens qui vont abonder à la caisse pour pouvoir faire cette fameuse répartition que Macron ou Édouard nous vantent.
Dans un système par points, il n'y a aucune logique de répartition. Dans un système par points, c'est un compte individuel de cotisation. Il n'y a aucun régime de répartition et il n'y a pas d'abondement. Que tu parles de points ou d'euros, c'est exactement la même chose. C'est de l'épargne.
Et donc, dans cette logique-là...
On parle bien des régimes complémentaires.
Hein. Oui, pour celle-là. Ouais.
C'est pour ça qu'on parle d'un système qui fait 40 millions de régimes spéciaux. Il y a un régime spécial par personne.
Il peut y avoir un régime différent par personne. Oui, alors c'est un peu moins vrai maintenant, puisque les régimes Arcos sont unifiés. L'AGIRC a rejoint le bateau en début d'année. Mais y a, jusqu'à pas si longtemps, pour les salariés en fonction des branches professionnelles, vous aviez différentes caisses Arco, Agir, Crésurca, G2R, enfin je ne vois pas, c'est des meilleurs, où le salaire de référence était différent et où la valeur du point était différente, alors que la cotisation sur votre fiche de paye était la même.
Alors il y a une question qui nous turlupine, mon cher Assurix. C'est finalement Macron, en nous promettant des baisses de revenus, parce que c'est bien ce qui nous promet à tous les toucher par ces régimes spéciaux ou pas d'ailleurs.
Tout à fait.
Et surtout les femmes aussi. Mais
on va en parler des femmes.
Pour toutes ces personnes, on a une question quand même. C'est finalement Macron, ce qu'il rêve, c'est qu'on passe aux assurances privées. Or, toi, assureur secret Assurix, tu nous dis non, 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 ne passez pas à l'assurance privée. Quel est l'argument qui nous permet d'avoir encore plus peur quand on va t'écouter là?
vous allez vous faire peur quand je vais argumenter sur ce sujet. Y a un télescopage de l'actualité qui n'est pas totalement innocent. De la part du gouvernement, c'est d'avoir fait voter la loi Pacte. Je ne sais pas si ça vous parle, la loi Pacte.
On s'en rappelle bien.
Avec notamment un système d'épargne retraite qui s'appelle le PER, qui est en vigueur depuis le 1er octobre, et pour lesquels vous recevez sûrement plein de pubs de banques ou de compagnies d'assurance, qui n'est en fait que le dispositif, les dispositifs anciens sur lesquels personne ne s'est mis d'accord, mais pour sauver la face. En fait, Macron, il a dit, on met tout ça dans une boîte, on met des jolies couleurs et un joli ruban, mais à l'intérieur, tous les compartiments sont identiques à ce qui existait précédemment. Et là-dedans, vous avez de l'article 82 en sursalaire, vous avez du 83, vous avez de l'après-fonds, vous avez du Madelin, vous avez du PERP, enfin bon, bah, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'entourloupe du truc, c'est que, et là aussi, je suis très bien placé pour vous en parler, c'est que quand moi je propose un contrat de retraite dit par capitalisation avec une sortie en rente, enfin jusqu'à maintenant parce que je ne pourrais plus le faire à partir de juillet l'année prochaine, je m'appuyais sur les quelques très rares contrats qui existaient encore sur le marché français qui permettaient à l'assuré, client, de savoir exactement avec quel montant de rente il allait sortir parce que les rentes étaient garanties. Les rentes étaient garanties, et pour garantir des rentes, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on s'appuie essentiellement sur une table de mortalité. Et là, c'est totalement transparent, puisque c'est l'INSEE hein, qui produit massivement des tables de mortalité. Donc on connaît très bien l'espérance de vie moyenne des hommes et des femmes à un instant T. La démographie, c'est une science quand même quasiment exacte. Et on le connaît même très bien par profession. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui permettait, moi, de vendre des contrats en toute sérénité, en disant à mes clients, vous pouvez épargner 100 euros par mois, et au bout du compte, en fonction de votre âge, en fonction de la durée du service de rente, vous aurez 150, 200 ou 250 euros. Là, pour le coup, c'était gravé dans le marbre de manière contractuelle. Alors, pas à vie, parce que les tables de mortalité, elles ont une visibilité dans le temps. Hein. Les dernières qu'on utilise, c'est celle de 2005, pour les tables générales, hommes-femmes. On a une visibilité sur la démographie jusqu'en 2036. Mais l'INSEE remet à jour régulièrement ses tables. C'est-à-dire que si jamais l'espérance de vie baissait, l'INSEE pourrait aussi revoir ses tables rapidement. Voilà. Donc, vendre des contrats avec des sorties en rente, c'est apporter des garanties. Or, je reviens à mon PER, le dispositif qui vient d'être mis en place. Là, les assureurs ont mis la touche finale. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé toutes les garanties qui pouvaient exister, il n'y en avait plus beaucoup, ont été totalement laminées. Il n'y en a plus. C'est-à-dire dans les contrats Madelin, vous n'avez plus de garantie de table, vous n'avez plus de taux technique, taux minimum garantie, il n'y a plus rien. Et puis, deuxième volet, l'État aussi en a profité dans ce nouveau dispositif pour piquer un peu plus d'argent, donc avec une fiscalité un peu plus élevée qu'avant. Donc c'est gagnant-gagnant pour les assureurs, les banquiers et pour l'État. Évidemment, celui qui trinque, c'est le citoyen. Donc, mettre en place un système de retraite par points qui va paupériser 34 millions ou 40 millions de personnes et les orienter sciemment ou inconsciemment, mais bon, on voit bien la manœuvre, sur des produits d'épargne sans garantie, c'est quand même pas très très sympa. Parce que sur les produits d'épargne sans garantie, elles sont sans garantie pour le bénéficiaire, mais je vous rassure, les banques et les compagnies d'assurance garderont les capitaux et sauront bien quoi en faire. Voilà.
Alors, c'est très intéressant cette vision et ça nous fait dresser les poils et nous motive encore plus pour aller bloquer les bus ou prendre nos vélos demain matin et toujours soutenir la grève.
On n'a pas le choix. Je vous rappelle que pour moi, c'est la plus grande casse sociale depuis 45.
Alors, on ne va pas non plus faire une émission de 2 heures. Nous n'avons pas le créneau.
Vous pourrez, hein.
Mais tu avais envie d'un dernier point. Tu voulais nous expliquer la recette miracle pour les retraites. Est-ce que tu es capable de nous le faire en 3 minutes?
Oui, en 3 minutes, c'est possible. Alors, il y a beaucoup d'autres points sur lesquels je voudrais insister, mais j'ai pas le temps là, évidemment. Dans le cadre d'une émission, je voudrais simplement dire que je suis très énervé d'entendre autant de mensonges à la radio et sur les plateaux de télé, et que ça ferait du bien de temps en temps de rétablir la vérité et de dire la vérité aux Français. Voilà. En 3 minutes, c'est très simple. Il faut absolument maintenir le régime par répartition, qui est le régime de base, qui est notre ciment social, et faire en sorte d'augmenter le minimum. Ça, c'est totalement indispensable, et c'est pas une histoire de financement, hein. On va pas revenir là-dessus, enfin, je veux dire, de l'argent, il y en a. Il faut juste aller le chercher au bon endroit, et ça, c'est pas très compliqué, hein. Si tu débloques le point d'indice, ou tu rattrapes un peu le salaire homme-femme, ou si tu augmentes un peu les salaires, il n'y a plus de problème de financement, hein. C'est même pas la peine d'aller en piquer à droite à gauche dans le CICE ou autre. Ce sera réglé. Puis la démographie va se rééquilibrer en 2030 aussi. Alors, comment faire? On touche pas au régime de base et on fait en sorte de l'améliorer un peu. Par contre, on touche au régime complémentaire. Tels qu'ils existent aujourd'hui, je mets de côté sciemment les régimes spéciaux, parce que tous les régimes sont différents. Il y a du travail à faire, il y a des choses à corriger, mais je mets de l'autre côté. Alors, ils parlent toujours de 42 régimes de retraite, c'est les 42 régimes spéciaux, il n'y a pas 42 régimes de retraite. Hein. Je fais aussi une petite parenthèse. Il y a celui des artisans, des commerçants qui se rajoutent, celui des agriculteurs. Il y a également toutes les retraites autonomes, hein, la CARM pour les médecins, la CAVP pour les vétérinaires, la CAVEC, la CRN pour les notaires, etc. etc. Il y a une petite quinzaine de caisses autonomes, donc il n'y a pas 42 régimes de retraite, il y en a plus aujourd'hui. Les régimes complémentaires, en 2 minutes. Je reprends la base du travail de Bozio, je ne sais pas si ça vous parle, Nicolas, je crois son prénom, et qui a produit une thèse sur la retraite universelle sous l'égide de Thomas Piketty, ça doit vous parler. Voilà. Leur base de travail n'est pas totalement idiote, mais je m'arrêterai là parce qu'après ça a dérivé. L'idée est simple. Les régimes complémentaires tels qu'ils existent aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils fonctionnent par points. Il faut qu'ils fonctionnent en euros. Après tout, les Français cotisent des euros. Et j'aimerais bien qu'ils puissent avoir la visibilité, la lisibilité sur un compte de retraite complémentaire en euros. C'est simple. Ils ont cotisé 100 dans l'année. Et ben ils ont 100 sur leur compte à la fin de l'année. Et puis l'année suivante, c'est 100 pour que ça reste toujours 100 l'année d'après. Et les années suivantes, on augmente ces 100 du montant de l'inflation pour travailler en euros constants. Ça, c'est clair, c'est transparent. Au bout du compte, comment on transforme? Là, il n'y a pas de transformation en points. Hein. On verse des euros sur un compte. Ces comptes sont revalorisés de l'inflation chaque année. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, c'est pas l'idée. Hein. C'est d'avoir un capital constitutif d'une rente. Et au bout du compte, on vous sert une rente. Alors, pour servir une rente de manière équitable, juste, et qui tient compte de la pénibilité, eh bien, on s'appuie sur les tables de mortalité, qui produisent des grilles, voilà, avec un coefficient. C'est pas nous qui les produisons, assureurs, hein, aux banquiers, même s'ils peuvent le faire. On s'appuie sur les grilles de l'INSEE, qui est un organisme indépendant et totalement fiable, et on applique les coefficients de l'INSEE. Vous avez un pourcentage qui s'applique à un âge donné sur un capital que vous avez épargné, et ça vous détermine votre rente annuelle. C'est très simple. On peut le faire de manière générale, en fonction de l'espérance de vie des hommes et des femmes, mais on peut le faire de manière beaucoup plus intelligente en s'appuyant sur les tables par profession. Parce qu'après tout, quand vous avez un capital, que veut savoir l'État, la banque ou je ne sais qui, c'est de prévoir pendant combien de temps il va devoir, en fractionnant ce capital, vous le donner. Et donc, il veut connaître votre espérance de vie. Et évidemment, l'espérance de vie, elle n'est pas unique, elle n'est pas universelle. Hein, un point, peut pas, c'est pas possible. Elle dépend des professions, même des différentes professions que vous avez pu faire. Et donc, si vous appuyez à la sortie sur des tables de mortalité qui existent par profession, eh bien, vous respectez parfaitement la profitabilité, j'aime pas tellement ce terme, de la vie à la retraite. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai été très clair.
Tu nous as décrit la froideur la plus statistique possible.
Mais ça permettrait deux choses politiquement. Ça permettrait d'ouvrir la retraite à partir de 55 ans, donc d'y inclure tous les métiers pénibles. Parce que vous voyez, les métiers qui sont pénibles, quand on a un métier très pénible et que l'espérance dans le métier de vie est 10 ans, ça veut dire qu'en moyenne, à 65 ans, vous êtes mort. Donc avec le nouveau régime, avec l'âge maximum de liquidation de la retraite au taux plein à 64 ans, ça veut dire que cette charmante personne, elle va profiter de sa retraite un an. C'est quand même pas très sympa. Voilà. Donc quand vous avez des tables par métier, ça permet en fait d'intégrer implicitement la pénibilité. Parce que c'est quoi la pénibilité? En fait, c'est l'espérance de vie que vous avez derrière. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un vrai choix social. Et le choix social, il ne peut pas être fixé par une date. Il ne peut pas être fixé par un âge. Il est fixé en fonction de votre espérance de vie. Donc c'est un autre éclairage, c'est un autre angle, et je pense qu'il est beaucoup plus juste et beaucoup plus lisible. Et puis le deuxième effet politique qui serait totalement séduisant pour un maximum de Français, c'est d'opter pour une sortie de sa retraite avec une partie en capital. Vous voyez, on pourrait sortir en faisant le choix de prendre, aller jusqu'à 5, 10, 15, 20% du capital que l'on sait constituer, que l'on voit sur son compte de retraite, parce qu'on l'a tous les ans, il est mis à jour, à la seule condition que le capital qui reste, qui est aliéné pour servir la rente, ne serve pas une rente en dessous du minimum qui permet de vivre, pas du minimum vieillesse, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, les 1200 euros, enfin voilà, il faudrait que ce soit...
Du seuil de pauvreté.
Oui, le seuil de pauvreté, voilà. Il faudrait que ce soit au-dessus, pour veiller à ce que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Après, il reste à fixer la fiscalité sur le capital, mais ça, on peut faire avec un prélèvement forfaitaire libératoire qui resterait à déterminer.
Allez, arrêtons les gros mots de confiscatoire. Alors, on va arrêter là avec notre invité mystère, voilà. Asurix, qui nous a proposé un modèle bien différent. On te remercie.
Voilà.
On va tenter de faire une toute petite minute d'analyse politique par Jean-Marc, et après on va parler d'un autre pays qui est lui aussi en lutte. Mais tout d'abord, une petite minute politique.
Alors, la réforme prévue, on vient de le voir, est sans aucun doute possible, inutile et catastrophique pour une immense majorité des Français. Plus un seul syndicat ne défend cette réforme, en dehors du MEDEF, on se demande pourquoi. Alors, la situation est simple, se décline en trois possibilités et une ignominie. La meilleure, le gouvernement retire sa réforme. Deuxième possibilité, le gouvernement lance un référendum sur la réforme. Troisième possibilité, on ajourne la réforme pendant 2 ans et c'est l'élection présidentielle qui sert de référendum. Évidemment, on peut penser qu'ils ne feront aucun des trois, puisqu'il y a trop de milliards à se faire pour les copains assureurs. Alors, un seul conseil... mettez-vous en grève.
Alors, des pays en grève, des pays en lutte, il y en a dans le monde. On connaît l'Algérie, le Chili, même partout. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas un pays qui n'est pas en... Lequel tu veux nous parler, au fait, Alex ?
Eh bien, je vais commencer par une petite devinette. Alors, dans quel pays, après avis de grève, a été déposé pour le 19 décembre par les syndicats de cheminots ? Dans quel pays, c'est le même ?
Ouais.
Un mouvement social a été lancé pour dénoncer la coupe des subventions pour la culture et la diminution des fonds accordés à la télé et à la radio publique.
J'en connais, hein ?
N'est-ce pas, hein ?
Oui.
Et dans quel pays il y a de sérieuses inquiétudes quant au maintien de la sécurité sociale à cause de projets politiques des partis de centre et de la droite ?
J'en connais beaucoup.
Ouais. Et dernière question, et là normalement on trouve. Dans quel pays il n'y a plus de gouvernement depuis près d'un an ?
Ah, ça je sais.
Le plat pays,
le
qui
Liban.
Est le mien.
Qui était le sien, il y a bien longtemps. Et donc vous l'avez deviné, c'est pas la France, c'est la Belgique, l'autre pays de la contestation. Alors en fait, il y a pas mal de points communs entre la France et la Belgique. Il y a un climat social tendu et une défiance forte envers la classe politique, une extrême droite rampante et une politique libérale qui satisfait pas grand monde, mais qui a pas l'air d'avoir d'alternative réellement crédible en face. Et pourtant, c'est pas ce qui nous frappe quand on pense à la Belgique. On pense pas aux points communs qu'il y a entre la France et la Belgique. Et alors pourquoi ? Bah, les institutions politiques sont assez différentes. Et la question du séparatisme fait écran à toutes les autres questions, et donc du coup on est tout le temps ramené à ça. Et en particulier évidemment la question sociale qu'on finit toujours par oublier. Et ben voilà, alors du coup je m'intéressais un peu à ça, la question sociale, ben comme tout le monde, j'étais ramené à la question identitaire par l'intermédiaire des institutions politiques. Donc, pour faire simple, mais ça va être compliqué, la Belgique est un État fédéral multicommunautaire, ce qui entraîne un enchevêtrement de niveau exceptionnel. Ainsi il y a 7 instances gouvernementales qui disposent d'un pouvoir législatif. L'État fédéral, le gouvernement régional et communautaire flamand, c'est le même, la région wallonne, la communauté francophone, la région de Bruxelles, la commission communautaire française de Bruxelles, la commission communautaire
flamande,
néerlandophone,
mais
elle dépend de la région flamande, donc c'est pas un vrai gouvernement, et la commission communautaire mixte, communautaire commune, voilà, de Bruxelles toujours. Et alors évidemment, donc comme tu l'as dit, il y a une commission communautaire néerlandophone, mais elle dépend du gouvernement flamand. Cerise sur le gâteau, la Belgique ne pratique pas la hiérarchie des normes comme la France. Alors, hiérarchie des normes, ça veut dire que la constitution est plus importante que la loi plus que le règlement, ce que fait l'État, c'est plus important que la région, le département, etc. Mais non, Belgique, c'est l'équipollence des normes. Et j'ai découvert ça aujourd'hui. Je ne savais même pas que ça existait. Autrement dit, les décrets ou lois ont la même valeur, quel que soit le niveau. Un décret du gouvernement flamand a la même valeur qu'une loi votée par le Parlement belge. Oui.
Oui, non, on peut être surpris quand même. Hein.
Donc, en pratique, pour s'en sortir et éviter que les différentes règles se contredisent, parce qu'a priori, c'est le bordel total, il faut définir des compétences exclusives de manière parfaitement précise. Exemple très simple, l'armée dépend de l'État fédéral, mais l'éducation dépend, elle, du niveau communautaire. Qui dépend de la région où on est, mais bon, ça c'est... Voilà. Du coup, toute politique tant soit peu transversale. Vous avez un projet un peu vaste, un peu qui touche à différents domaines. Ça va entraîner des marchandages complexes entre tous les différents niveaux. Et du coup, bah, la question qui se pose, hein, c'est un point de vue français, mais bon, je suis français. Quelles compétences il reste à l'État fédéral belge ? En gros, l'armée et la sécurité sociale. Du coup, bah évidemment, la sécurité sociale, pas tellement l'armée, hein, mais la sécurité sociale, c'est vraiment un enjeu politique. Un enjeu politique quand il y a des élections nationales. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a eu récemment des élections nationales. Et d'un côté, on se retrouve avec des Wallons socialistes très attachés au maintien de la solidarité nationale, de la sécurité sociale, qui en font des tonnes. De l'autre, des Flamands de droite, pour être gentils, rêvant de séparatisme et désireux de se débarrasser de ce fil à la patte qu'ils estiment beaucoup trop coûteux. Et évidemment, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que tous les Wallons ne sont pas de gauche, tous les Flamands ne sont pas identitaires et de droite.
Ah bon ?
Ou d'extrême droite.
Je ne savais pas.
Bon, petite majorité, ah, pas tous. Voilà. On se retrouve du coup à chaque élection avec un paysage politique.
Oui, mais les Flamands ne tentent sans rien dire.
C'est vrai, et puis entre les guerres et pendant les guerres, enfin bon, bref. Paysage politique éclaté et dans la quasi-impossibilité de former un gouvernement un tant soit peu cohérent. Si on prend les dernières élections, deux partis arrivent en tête. Ces deux partis flamands, c'est la NVA, autrement dit la Nouvelle Alliance Flamande, et le Vlaams Belang, qui est un ancien parti d'extrême droite, qui officiellement n'est plus d'extrême droite, mais qui en réalité est encore un peu d'extrême droite.
C'est les Républicains ?
Ouais, c'est entre le Front National et les Républicains, c'est flamand, c'est spécial. Donc deux partis séparatistes qui souhaitent avant tout vider l'État de sa substance pour arriver à une confédération, voire à l'indépendance. Du coup, bah, ils ne veulent pas diriger le gouvernement. Parce que, voilà, ils ne veulent pas remettre des sous dans la machine. Et du coup, ils font un chantage. Ils disent, on est prêt à faire un gouvernement, à condition qu'on passe à la Confédération. Et si on passe à la Confédération, plus de sécurité sociale commune. Ça devient une compétence régionale. On se débarrasse de l'État. Et voilà. Et donc, du coup, on se retrouve sur la même question. Il y a une vraie question sociale en Belgique. Il y a des luttes. Il y a des mouvements qui existent. Mais tout est repris, surdéterminé par la question identitaire.
Mmh. Autre pays, juste de l'autre côté de la frontière. Alors, bah, c'est comme ça que se termine l'émission. On remercie nos invités par téléphone qui étaient notre Assurix, l'assureur mystère. On remercie Gaël à distance, chroniqueur Alex et Jean-Marc, Ludo à la technique, et on fait un gros smack à Jean-Yves, bien sûr. Et on partage avec lui The Bottle de Jill Scotteron.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared?